Marco Polo. Marco Polo, tout le monde connaît Marco Polo. La route de la soie, la Chine, le livre des merveilles.
Voilà, viennent se créer donc les voyages de Marco Polo avec la compagnie du Tirlaine et Swann Blacher et Eric Navet. Swann Blacher, bonjour.
Bonjour.
Donc c'est un spectacle qu'on vient de voir, il vient d'être créé tout chaud, tout neuf.
Ouais, tout frais sorti de la boîte.
Donc l'idée bien sûr c'est d'évoquer l'univers de Marco Polo, aussi mettre en évidence quelques jolis contes, quelques contes qui font rêver.
Oui, un conte traditionnel du Moyen-Orient, les babouches d'Abou Kassem, et puis un conte chinois, la perle de lune.
Alors évidemment, à partir de là, il y a un univers musical qui est composé par Eric Navet, qu'on va retrouver dans quelques instants. Mais au départ, ce choix de conte, il a été aussi réalisé pour évoquer complètement le voyage de Marco Polo ou juste prendre quelques éléments ?
Les contes, ils étaient là pour illustrer les pays dans lesquels Marco Polo s'est installé pour quelque temps et pour illustrer les pays qu'il a traversés.
Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas complètement Marco Polo, il y a une partie légende et une partie réalité. Bon, vous avez fait un peu le tri des choses, quoi qu'on ne sait pas vraiment au final ce qui est réaliste dans ce que vous évoquez. Mais le départ de Venise, ça, c'est quand même quelque chose d'évident.
Complètement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie histoire de Marco Polo, elle est encore plus incroyable que tout ce qu'on raconte. Hein. Marco Polo, c'était réellement un petit garçon qui était livré à lui-même. Il était presque orphelin parce que son père, qui était marchand, qui avait un commerce d'épices, qui avait un commerce, c'était un marchand, il était très souvent à Constantinople. Et un jour, son père et son oncle, Marco Polo, ont disparu. Ils sont partis du côté de Constantinople et on ne les a plus revus. Donc Marco Polo était un petit garçon qui vivait quasiment tout seul. Et sa grande passion, c'était les bateaux. Ce petit garçon, il passait ses journées sur le port. Il était passionné, fasciné par les bateaux. Il voyait tout ce commerce. Et ça, c'était déjà le début d'une histoire.
Alors Venise, à l'époque, grande capitale du commerce mondial, international. Ouais. On peut redonner un peu la période, les dates.
1252, la naissance de Marco Polo.
Donc effectivement, en 1252, les grandes puissances économiques du monde, forcément, ont retrouvé la Chine.
Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la véritable histoire de Marco Polo, il vit tout seul jusqu'à 13 ans. Et un beau matin, à l'âge de 14 ans, son père et son oncle reviennent au bout de 7 ans d'absence, avec la mission, parce qu'ils ont rencontré le grand Kubilai Khan, là-bas, en Mongolie, avec la mission de ramener quelques symboles de la puissance de la religion catholique. Parce que l'empereur Kubilai Khan était un homme qui était passionné par toutes les religions. C'était un grand sage, un grand philosophe. Et Matteo et Niccolo Polo ont pour mission de retourner auprès du grand Khan avec des symboles de la religion catholique ainsi que 100 lettrés catholiques qui viendraient lui expliquer la puissance de la religion catholique. Alors ça, bien entendu, c'était stratégiquement très intéressant parce que ça voulait dire pour l'Occident s'allier à la plus grande puissance mondiale, l'Empire mongol, et pour les Mongols s'allier à la plus grande puissance, l'autre grande puissance, les catholiques, tout ça contre les mamelouks, les musulmans, qui commençaient à prendre de l'importance. Et à 14 ans, Marco Polo prend la route avec son père et son oncle en direction de la Mongolie pour une mission d'ambassade internationale. Ils mettent 4 ans à arriver jusqu'en Mongolie.
Donc ces histoires que vous avez utilisées pour présenter ce spectacle, vous avez fait des choix forcément. Qu'est-ce qui vous avait au départ intéressé comme choix et ce que vous avez écarté éventuellement, que vous auriez envie de reprendre ?
Les choix, c'est difficile parce qu'il y a tellement de pays traversés qu'on aurait envie de plonger dans chaque culture, de ramener des choses de chaque culture. Nous, on a mis l'accent sur le départ de Venise, la magnificence, les couleurs de Venise. Le Moyen-Orient, avec la culture arabe et toutes les ambiances qui peuvent venir de ces pays-là, et la Chine. Voilà, on a axé sur ces trois grandes étapes du voyage, le début, le milieu, le Moyen-Orient, et du coup, il y a le Kazakhstan. On aurait aimé parler plus des steppes, de toutes ces étendues, de tous ces déserts qui ne sont pas les déserts du Moyen-Orient, mais les déserts de steppes, les yourtes, ces hommes à cheval.
Voilà, ce sera peut-être pour une prochaine création.
Inch'Allah.
Éric Navet, bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez organisé la partie musicale de ce spectacle, vous accompagnez donc la comédienne sur scène et vous restituez des ambiances sonores, voire des univers culturels.
C'est ça, oui. J'essaie de planter les décors qu'il n'y a pas sur scène, quoi, avec la musique. Donc je joue du vibraphone, donc c'est vrai que c'est le vibraphone a un son qui se prête tout à fait à tout ce qui est du domaine du rêve, du conte. Et puis j'utilise aussi des samples pour créer des ambiances qui aident à conter.
Dans votre profession de musicien, ce sont les instruments que vous utilisez habituellement, que vous maîtrisez habituellement ou vous en avez d'autres ?
Oui, je suis aussi batteur, donc vibraphoniste, je joue du marimba aussi, enfin des percussions, et donc un petit peu les samples, tout ce qui est électronique.
Ce qu'on a entendu dans le spectacle, on peut dire que c'est une création spécifique pour l'univers sonore du spectacle.
Oui, tout à fait, oui. En fait, à l'origine, les Contes de la Soie ont été créés pour l'île 3000, parce qu'il y avait une exposition qui s'appelait... c'était la route de la soie, oui, c'est ça. Et donc, on a fait une dizaine de séances, et là où on a pu détailler un peu tous les pays de la route de la soie. Et donc ça nous a permis de... Enfin, ça m'a permis à moi de créer beaucoup de thèmes suivant chaque pays, quoi. Et là, ce qu'on a fait là, c'est un condensé de toute cette épopée en 45-50 minutes, quoi.
Donc certains passages sont pour accompagner la comédienne, d'autres plus pour mettre en évidence la musique que vous composez.
C'est cela, donc la première au service de la conteuse pour essayer de planter encore une fois des ambiances, pour essayer de tendre les actions, et puis d'autres, des intermèdes musicaux aussi entre les contes pour laisser le temps au spectateur de s'imprégner de ce qu'il a déjà entendu, et puis de faire une petite pause.
Alors, il y a également des éléments sonores qui correspondent à des événements du conte, hein, des bruitages, on va dire.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a une tempête, où il y a un naufrage, et là, j'ai utilisé des samples particuliers, mais pas évidemment des samples de mer, mais c'est des sons que j'ai récupérés à droite, à gauche, que j'ai détournés et qui peuvent évoquer la mer déchaînée.
Merci, Éric Navet. Swann Blacher, donc cette musique, cette présence d'Éric Navet sur scène, vous réagissez par rapport à ça ou est-ce que la musique vous suit ?
On est complètement en interaction et ça dépend des moments. Il y a des moments, par exemple, pour le départ de Venise dans le bateau, quand le vent commence à souffler dans les voiles, Éric au vibraphone fait monter l'ambiance et là sincèrement j'ai le poil qui se dresse et je sens le vent parce que c'est lui qui va apporter toute cette matière. La musique, elle apporte une matière, des éléments qui me portent, qui me transportent, et je suis sur un coussin d'air, ça m'emmène complètement. À d'autres moments, on va être beaucoup plus sur un travail précis d'accompagnement de gestes et là on est beaucoup plus calé. À aucun moment je ne suis insensible à la musique. Soit on est dans un travail précis qui me conforte dans ce que je suis en train de faire, dans quelque chose de très visuel et précis, soit parfois ça m'emporte, ça me pousse et j'y suis. Et si j'y suis, j'ai plus de chances d'y emmener le public, ça c'est sûr.
Donc parlons de ce public, aujourd'hui 75 personnes à peu près, la moitié d'enfants, des adolescents et des adultes. J'étais assez impressionné par l'attention et le calme de ces enfants.
Ouais, ils voyagent, hein. On est tous ensemble. Après, il faut être vigilant sur le rythme, mais les enfants se font des images. J'ai pas été plus surprise que ça. Voilà, on part tous ensemble.
François de Bloch, donc bonjour.
Bonjour.
Donc vous vous occupez au Tirelaine de la communication. Donc ce spectacle fait partie de la panoplie, la palette du Tirelaine. Effectivement, cet univers vous a intéressé au départ et maintenant vous soutenez ce spectacle dans ses tournées.
Bah, on le soutient et en même temps on l'a co-construit avec Swan qui s'occupe aussi des ateliers théâtre de la compagnie du Tirelaine. Je le spécifie parce qu'on est connu pour la musique, les musiques du monde qu'on propose, mais on a aussi cet aspect théâtral et conte qui revient régulièrement chaque année à travers des ateliers, à travers des nouvelles créations comme celle-ci, les contes de Marco Polo. Et donc évidemment, comme le disait Swan, c'est proposer à un public, qu'il soit petit ou plus grand, un voyage à travers des cultures. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est essayer de voir un peu qui est l'autre avant de se faire une idée de préconçue qui va nous empêcher, qui va nous contraindre à accepter une image qui finalement s'avère être plutôt fausse, quoi. Le chemin vers l'autre est très important pour le Tirelaine. C'est une vérité qu'on recherche. C'est pas un journal télé ou un papier qui va nous dire voilà, attendez, cette personne là elle est comme ça et elle doit être comme ça. Non, c'est à chacun de découvrir l'autre. Et donc le Tirelaine fait ça pour dans tous ces combats, hein. C'est la Palestine, les sans-papiers, les tziganes, voilà, c'est avoir le pouvoir de s'indigner. Et alors c'est, là on parle d'un conte musical pour enfants, donc évidemment on n'est pas en train de leur bourrer le crâne avec de la politique. Donc c'est une façon avec ces voyages de Marco Polo, de proposer aux enfants ces pérégrinations d'un adolescent qui souhaite se confronter concrètement et avoir sa propre image de toutes ces populations avec qui il sera en contact, quoi. Et c'est des problématiques qu'on rencontre régulièrement, voire même quotidiennement, et qui sont un peu mises à mal en ces périodes de électorales dont tout chacun saura de quoi je parle, quoi.
Merci François de Bloch. Caroline Perret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la Maison Folie Moulin.
Tout à fait.
Et donc, dans ce cadre-là, vous accompagnez des artistes en résidence, des compagnies.
Oui, effectivement.
Dans le cadre d'un projet culturel global qui est soutenu, bien sûr, par la mairie de Lille.
La Maison Folie de Moulin est le service municipal, donc est directement relié au service culture de la ville de Lille.
Alors, en quelques mots, le projet culturel se définit comment? Et cette compagnie que vous avez accueillie en résidence, en quoi correspond-elle à ce projet?
Alors en fait, un des grands axes de travail d'une Maison Folie, et notamment de celle de Moulin, c'est le soutien à la création. Ce qu'on voit en premier lieu dans les Maisons Folies quand on est grand public, je pense, c'est la diffusion, mais on oublie qu'il y a aussi tout un travail souterrain qui est fait tout au long de l'année et qui consiste en fait, d'une part, à travailler avec les habitants, par le biais d'ateliers, de rencontres, de médiations, mais aussi de soutien aux artistes et aux associations locales. Donc là, la résidence de Swan et d'Eric, elle rentre complètement dans le cadre des missions de soutien à la création des Maisons Folies. Ces lieux, ils ont été avant tout conçus pour permettre à des artistes de travailler dans de bonnes conditions. Donc ces soutiens, ils peuvent prendre différentes formes. Là, dans le cas d'Eric et Swan, c'était la mise à disposition effectivement de notre salle et également l'accompagnement technique de la part de notre équipe sur le projet.
Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de confronter la réalisation de ce travail à, j'allais dire, votre public naturel.
Alors, oui, enfin notre public et puis celui du Tirelaine, parce qu'en général, ça fonctionne bien quand il y a des partenariats avec les différents acteurs, donc que nous sommes, mais aussi les autres acteurs associatifs. Et là, effectivement, c'est un peu le but du jeu quand même, c'est qu'à un moment donné, quand on accompagne des artistes en résidence, on a envie de voir ce que donne leur création et de leur permettre de rencontrer leur public. D'où le fait d'avoir eu envie de programmer ce conte.
Si une compagnie souhaite bénéficier de votre soutien, de vos équipements pour créer, comment fait-elle ?
Alors, assez simplement, elle s'adresse donc à l'accueil de la Maison Folie. Donc, soit elle nous envoie un mail, soit elle vient nous voir ici. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, on ne sélectionne pas finalement les projets. C'est plus le planning de la Maison Folie et de l'équipe qui va définir, et ainsi que les contraintes techniques, parce qu'on n'a pas non plus des grandes salles, donc ça veut dire qu'effectivement il faut que le projet puisse rentrer dans nos murs, mais c'est plus en fonction effectivement des plannings de salles et de l'équipe qu'on va pouvoir tout simplement accueillir les projets. Donc on peut accueillir tout type de projet, effectivement, qu'il soit dans le domaine musical, conte, théâtre. Finalement, on sélectionne pas l'esthétique, c'est plus en fonction de l'arrivée des projets. Alors, on n'a malheureusement pas autant de disponibilité qu'on le souhaiterait, parce qu'effectivement, c'est relié à tous les autres axes du projet, donc la diffusion, les ateliers, l'accueil d'associations. Mais dès qu'on peut, effectivement, dès qu'on a des créneaux disponibles, on le fait.
Merci Caroline Perret. La Maison Folie, donc Moulins, c'est au 03 20 95 08 82 que vous pouvez en savoir plus.
C'est ça, merci.
Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.